Peter Pan de James Barry. Chapitre 1. Tous les enfants, hormis un seul, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils doivent grandir. Voici comment Wendy l'a pris à son tour. Elle avait 2 ans et cueillait des fleurs dans un jardin. Elle en cueillit une autre encore et courut l'offrir à sa mère. Elle devait être bien adorable en cet instant, car Madame Darling, portant la main à son cœur, s'écria « Si tu pouvais rester toujours ainsi !» Elle n'en dit pas plus long, mais dorénavant, Wendy sut qu'il lui faudrait grandir. Dès qu'on a 2 ans, on n'y échappe pas, on sait. 2 est le commencement de la fin. La famille habitait au numéro 14, et jusqu'à la venue de Wendy, sa mère était la reine. C'était une dame charmante, avec une tournure d'esprit romantique et une bouche si joliment moqueuse. Son esprit romantique ressemblait à ces petites boîtes qui viennent de l'Orient mystérieux et contiennent d'autres boîtes encloses l'une dans l'autre. Vous croyez être arrivé à la dernière, elle en cache encore une à l'intérieur. Quant à cette bouche moqueuse, un baiser y était posé que Wendy ne parvenait jamais à prendre. Il se tenait là, bien ostensiblement, au coin des lèvres, à droite. Et voici comment Monsieur Darling conquit sa femme. Le bataillon des messieurs qui se trouvaient célibataires alors qu'elle était encore jeune fille, ayant découvert au même moment qu'ils en étaient amoureux, tous se précipitèrent chez elle pour lui demander sa main. Tous, sauf Monsieur Darling, qui prit un fiacre et entra le premier dans la place. Ce fut ainsi qu'il la conquit. Il obtint tout d'elle, à l'exception de la boîte la plus secrète dont il ignora toujours l'existence et du baiser auquel, avec le temps, il renonça. Wendy pensait que Napoléon, lui, aurait fini par l'obtenir. Mais je le vois bien en train d'essayer, puis battre en retraite, fou de colère, en claquant la porte. Devant Wendy, Mr. Darling se vantait souvent de ce que sa mère, non seulement l'aimait, mais le respectait. Il était un de ces êtres profonds et subtils pour qui les valeurs mobilières n'ont pas de secret. En vérité, personne ne s'y connaît vraiment en la matière, mais lui avait tout à fait l'air de s'y connaître, et sa façon d'affirmer que les valeurs sont en hausse et les titres en baisse inspirait aux femmes le plus grand respect. Madame Darling se maria en robe blanche. Au début, elle tint les livres de compte à la perfection, comme en se jouant. Il n'y manquait même pas une tête de chou de Bruxelles. Puis, peu à peu, des choux-fleurs entiers passèrent au travers. Et à leur place, l'on vit des images de bébés sans visage. Au lieu de les additionner, Madame Darling les dessinait. C'était ses pronostics. Wendy vint la première, puis John, enfin Michael. Durant une semaine ou deux après la naissance de Wendy, ses parents se demandèrent s'ils pourraient la garder, car cela faisait une bouche de plus à nourrir. Monsieur Darling était très fier de son rejeton, mais en homme responsable, il vint s'asseoir sur le lit de sa femme, lui prit la main et se mit à calculer les dépenses futures sous le regard suppliant de Madame Darling. Elle était prête à courir ce risque, advienne que pourra, mais ce n'était pas du tout la façon de voir de son mari. Il n'y voyait clair qu'armé d'un crayon et d'une feuille de papier, et si par malheur elle l'embrouillait avec ses suggestions, il devait tout recompter depuis le début. « Cette fois, ne m'interromps pas, » demandait-il. « J'ai 1,17 livre ici, 2,6 livres au bureau. En me passant de mon café au travail, je gagne 10 shillings, ce qui fait 2,09 livres et 6 pence. Puis, t'es 18,03 livres, cela fait 3,07 livres et 9 pence. Puis 5,00. Qu'est-ce qui remue ? 8, 7, 9, je reporte 7. Ne parle pas, mon trésor. Plus la livre que tu as prêtée à cet homme qui est venu frapper à la porte. Tranquille, bébé. Je reporte, bébé, ça y est. Vous avez réussi. Que disais-je ? 9, 7, 9, oui. 9, 7, 9. La question est donc de savoir si nous pourrons vivre pendant un an avec 9 livres, 7 shillings, 9 pence. Aucun problème, George. Mais Madame Darling avait un préjugé en faveur de Wendy, et c'était lui qui, des deux, montrait la plus grande force d'âme. « Souviens-toi des oreillons, » dit-il d'un ton menaçant, et il enfourcha de nouveau son dada. « Oreillons, 1 livre. C'est ce que j'inscris, mais je crains que cela ne s'élève à 30 shillings. Chut ! Rougeole, 1,5 livre. rubéole, une demi-guinée, ce qui fait 2, 15, 6, 16 d'agiter le doigt. Coqueluche, disons 15 shillings. Et la liste s'allongeait, et le total n'était jamais le même. En fin de compte, Wendy passa de justesse, avec un rabais de 7 shillings 6 sur les oreillons et les deux maladies rouges ramenées à une seule. La venue de John fut aussi âprement discutée, et Michael faillit bien y rester. Pourtant, on les garda tous les deux, et bientôt on pouvait voir les trois petits darlings se rendant à la queue leu-leu au jardin d'enfants de Mademoiselle Folsom sous la surveillance de leur bonne. Madame Darling aimait l'ordre, et Monsieur Darling s'efforçait scrupuleusement d'imiter ses voisins, d'où la bonne. Comme ils étaient pauvres, vu le prix du lait que les enfants buvaient en quantité, cette bonne se trouvait être une chienne Terre-Neuve très collémontée, répondant au nom de Nana, et qui n'avait servi aucun maître en particulier avant d'être engagée par les Darling. Ils avaient fait sa connaissance dans le parc de Kensington, où elle passait le plus clair de ses loisirs à jeter des coups d'œil furtifs dans les berceaux, ayant toujours considéré les enfants comme une affaire importante. Les bonnes d'enfants négligentes la détestaient pour cette manie, et aussi parce qu'elle les suivait jusqu'au logis et se plaignait à leur maîtresse. Nana se révéla d'emblée un vrai trésor de nounou, veillant strictement à l'heure du bain et se levant à n'importe quelle heure de la nuit, au moindre gémissement d'un de ses protégés, car naturellement sa niche était installée dans la chambre des enfants. Avec un flair sans pareil, elle savait si votre toux est purement exaspérante ou si elle mérite qu'on vous entoure la gorge d'une chaussette. Jusqu'à sa dernière heure, elle resta fidèle aux remèdes de bonne femme, comme les feuilles de rhubarbe, et proclamait bien haut son mépris pour ses théories nouveau genre sur les microbes et autres bestioles. On aurait pu prendre une leçon de bonne manière, rien qu'à l'avoir escorté les enfants jusqu'à l'école. Lorsqu'ils se tenaient bien, elle leur permettait de marcher à côté d'elle et les ranger en file indienne s'ils cherchaient à muser en chemin. Les jours de gymnastique, elle n'oubliait jamais le tricot de John et portait toujours un parapluie dans sa gueule pour le cas où il pleuvrait. Il y avait dans le sous-sol du jardin d'enfants une salle où les bonnes attendaient. Elles s'asseyaient sur les banquettes tandis que Nana se couchait sur le plancher. C'était la seule différence. Néanmoins, celle-ci affectait de l'ignorer, comme si elle occupait un rang inférieur de la société, et elle, de son côté, n'avait que dédain pour leur futile bavardage. Lorsque des amis de Madame Darling venaient visiter la chambre des enfants, Nana, contrariée, subtilisait en un clin d'œil le tablier de John pour lui enfiler à la place celui qui est orné d'un galon bleu, défroisser la robe de Wendy et se précipiter sur les cheveux de John. On aurait pu trouver pouponnière mieux gérée. Pourtant, Monsieur Darling, tout en reconnaissant le fait, éprouvait un certain malaise quand il imaginait les commentaires des voisins. Ne devait-il pas songer au rang qu'il occupait dans la ville? Nana le gênait encore d'un autre point de vue. Il avait le sentiment qu'elle ne l'admirait pas. « Mais si, Georges, elle t'admire follement !» le rassurait Madame Darling, tout en faisant signe aux enfants de se montrer alors particulièrement gentils envers papa. S'ensuivaient alors des danses gracieuses, auxquelles se joignait parfois Lisa, l'autre domestique des Darling. Comme elle avait l'air petite fille avec sa coiffe et son long tablier de bonne, bien qu'elle eût juré au moment d'entrer en service qu'elle n'aurait plus jamais 10 ans. Oh, la gaieté de ses ébats! Et la plus gaie de tous, Madame Darling, pirouettait avec tant de frénésie qu'on ne voyait plus d'elle que son baiser. C'est alors qu'on aurait eu une chance de le ravir, en sautant sur elle à l'improviste. Non, il n'existait pas de famille plus simple, plus heureuse, avant l'arrivée.